lundi matin, je viens d'ouvrir aux poules. C'est un tout petit peu tard en fait, mais on fait la vente à la ferme. Et donc on a repris normalement, entre guillemets. Donc pendant le confinement, on avait fait par commande des paniers, ce qui représentait pas mal de boulot, mais comme ça, il n'y avait pas de queue, pas d'affluence, enfin voilà. Donc là, on a changé un peu le système, c'est encore un peu particulier. On s'est mis juste devant la maison sous le tilleul, donc c'est très sympa. Il y a une partie qui est en commande, des légumes, donc légumes œufs, miel, et une partie de vente libre, disons. Voilà, donc on a préparé ça ce matin. On a fait les paniers et puis une fois que j'avais fini des dégos, je suis venue ouvrir les poulettes, leur donner le grain. Et puis là, je vais aller ouvrir les serres au maraîchage parce que c'est vraiment une très très belle journée. Il fait pas très chaud, mais c'est quand même un grand ciel bleu, donc il doit commencer à faire chaud dans les serres. Il est 9h là, donc voilà. Et après, je vais continuer la vente avec Hugo. Et cet après-midi, j'irai faire un petit tour de mes moutons. Et normalement, on devrait attaquer les foins. Donc, la faucheuse est réparée. Il y a une petite fuite. Donc, j'espère que ça va tenir. On verra. Donc, hier, c'était un petit peu du stress. Et puis là, c'est quand même un petit peu l'excitation. Parce que c'est vraiment... j'aime beaucoup, beaucoup... je sais pas si je peux dire ça. J'aime beaucoup la période des foins. Parce que je vois que je vais... faire du foin et de l'alimentation pour les bêtes pendant l'hiver. Et le foin est particulièrement beau dans la parcelle qu'on va faucher. Donc ça, c'est très motivant. Mais il y a en même temps un petit stress de la panne, de la casse, enfin voilà. Bon, et ben bonne journée à vous. Alors, c'est la saison des foins qui approche. L'herbe est bien haute et il y a des créneaux de beau temps pour faire les foins. Mais on a un petit problème de matériel. J'ai cassé la faucheuse l'an dernier, à la première fauche au quatrième tour, je crois. Et donc, on a mis quelques journées d'hiver et jours de pluie à la réparer, à tout démonter. Enfin, donc, c'est une vieille faucheuse. 5 assiettes toutes rouillées qu'on a acheté d'occasion. Et donc on l'a réparé, on croyait que c'était bon. Et en fait il y a une fuite. Donc voilà, la saison commence. Commence même pas en fait. Donc j'espère que ça ira. Ah, c'est toujours une période un peu stressante, j'avoue. Parce que on a du petit matériel de briquet de broc quoi. Donc on va voir ce que ça fait. J'espère que ce sera pas trop grave la fuite, qu'on arrivera à la réparer. Et qu'on pourra faucher. En tout cas l'herbe est belle. On va faucher la première prairie. Donc c'est la prairie qui est juste après le village où on est, juste avant le cimetière. Et c'est une prairie qu'on a semée il y a 4-3 ans. Et elle est assez productive et c'est joli. Il y a pas mal de trèfles. Et puis un petit peu plein d'herbes, des plantains, des grabinets bien sûr. Et c'est un foin que je réserve pour l'annulage parce qu'il est beau. C'est le premier que je fais dans la saison souvent. Il est assez beau. Et il permet de bien maintenir le lait en fait. Donc voilà, suite au prochain épisode. On est samedi 16 mai, il est 15h30. Je viens de finir de réparer ma faneuse. Et Hugo est en train de faucher. Et donc c'est le grand départ pour la saison des foins. Donc là je vais aller le voir... en vélo, où il en est, et puis s'il a bien avancé, si notre faucheuse a tenu le coup, je remonterai et puis j'irai pirouetter le foin. Donc en fait, dans le foin, il y a 3 étapes, ou 4 même. Il y a la fauche, qu'on fait avec une faucheuse. Il y a faner, donc on fait avec soit une faneuse, moi j'appelle ça une pirouette, mais je sais pas si c'est très courant. Donc ça c'est une étape qu'on peut faire 2-3 fois, enfin ça dépend suivant l'humidité et la sécheresse du foin. Ensuite il y a l'andainage, donc ça c'est fait avec un andaineur, c'est ce qui permet de faire des andains, donc ça rassemble le foin en des lignes. Et puis après il y a le pressage, donc qui est fait avec une presse. Et donc ça permet de presser le foin pour le mettre en balles rondes, en petites bottes, en bottes de moyenne densité, en bottes de haute densité, enfin suivant l'outil que vous avez avant, ça vous fait des bottes de différentes formes et de différentes densités. Donc nous, c'est notre deuxième année avec une presse à balles rondes. Avant, on faisait tout en bottes moyenne densité. Donc c'est beaucoup de manutention l'été, en fait. Moi, je trouve que c'est un des meilleurs foins que j'ai fait avec le foin qu'on faisait dans le Jura, en fait, quand on était dans une ferme dans le Jura. Donc là, c'était encore un autre système. Donc on fauchait, on fanait, on endainait. Et en fait, on ramassait... sans presser, en fait, en vrac, disons, et il était fini de sécher en grange. Et ça, c'est un des meilleurs foins que j'ai rencontré, parce qu'il est, il sent très bon, et comme il n'a pas été trop au soleil, il n'est pas totalement fini de sécher, mais suffisamment pour être conservé quand même, pour pas fermenter. Du coup, il garde sa couleur verte, un vert sec quand même, c'est pas tendre, et il est très très riche, il garde tous ses nutriments. Donc ça, c'est le foin séché en grange. Et donc, cette année, nous, on fait des foins à balle, du foin en format balle ronde. Donc, ce choix a été fait parce que on a plusieurs ateliers sur la ferme, on est deux. Maintenant, on a une petite fille. Et en fait, moi, quand je fais les foins, c'est généralement fin mai, juin. Et ça tombe exactement à la même période où Hugo est un petit peu submergé par le travail au niveau du maraîchage. Donc le choix a été fait de passer en balle ronde pour que je puisse faire les foins tout seul. Parce que donc les bottes moyenne densité, c'est des bottes qui font des petites bottes carrées qui font environ entre 15 et 20 kilos. Et en fait, le principe, c'est qu'on les presse et on les ramasse tout de suite dans la journée. Elles sont pas assez, disons, pressées et denses pour que l'humidité ne pénètre pas dedans. Et rien que le fait de les laisser sur le sol une nuit ou quoi, ça endommage déjà la qualité du foin. Donc c'est du foin de très bonne qualité et c'est un foin que j'appréciais à manipuler l'hiver. Parce que tu prends une botte, tu la distribues et puis voilà, bon, c'est très simple, il n'y a pas besoin du tracteur, enfin voilà. Et puis bon, ça marchait plus quoi avec la petite, nos deux activités. Donc on arrive quand même à faire du beau foin parce que j'ai l'impression qu'on a gardé un petit peu les techniques de la montagne entre guillemets. Donc le foin est quand même assez vert et on essaie d'étaler un petit peu sur la saison. Un, parce que on a du petit matériel. Donc on peut pas faucher 15 hectares dans la journée, ce qui est très bien d'ailleurs. Et deux, moi ça me permet d'avoir du foin de plusieurs qualités en fait. Et pour la bergerie, la ration en bergerie, je trouve ça mieux parce que je donne le foin tardif, donc plus grossier en début de repas. Après, quand j'ai du métail, quand il me reste du métail, je mets du métail ou de la luzerne. Et après seulement, je donne ce que j'appelle le petit foin, mais c'est plutôt le foin jeune, en fait, les premières fois. Voilà. Donc c'est... Bon, c'est pas très compliqué, mais c'est vrai que c'est un petit peu stressant de... C'est du matériel attelé qui est, pas motorisé, mais en mouvement, quoi. Donc c'est vrai que ça tourne vite. C'est assez... Ça demande beaucoup quand même au matériel de le faucher, presser. Souvent il fait chaud. Encore que là aujourd'hui il fait pas très chaud, il y a grand soleil, il y a du vent. Ça va vraiment faire un foin parfait parce qu'il va sécher sans brûler au soleil. Et normalement je devrais presser mardi, mais c'est pas sûr parce qu'il y a la tonte aussi. Bon voilà, on verra. Allez, je vais voir Hugo et puis on va voir si je pirouette. Ok, Hugo a fini de faucher et le foin est magnifique. Et moi là, je fais le plein du tracteur et je pars pirouetter. C'est parti. Donc là, je suis au cerf. Je suis dans la grande serre, donc je vais ouvrir, ça va, il fait pas trop chaud. Et alors à ma gauche, il y a des tomates, des haricots, des patates nouvelles, des choux chinois. Il y a des maïs qui commencent tout juste à sortir, mais les souris ont pratiquement tout mangé, à part les gros. Et à ma droite, il y a des haricots grimpants, des tomates, des basilics, des patates douces, des oignons blancs et des poivrons. Voilà ce qu'il y a dans... Ah, et j'ai oublié les concombres. Voilà ce qu'il y a dans la serre. Par contre, je suis en train de voir que les basilics se font quand même pas mal manger par les limaces. Oh là là. Alors, on va ouvrir quand même parce qu'il fait bon. Et juste dehors, en fait, il y a l'engrais vert. Donc, c'est un métal qui est magnifique. Il nous arrive à la poitrine. Et il y a du seigle, de l'avoine, pois, vesse, triticale. Il y a aussi les 2000 poireaux qu'on a repiqués hier, qui font un peu la tête. Je pense qu'il faudrait qu'on les arrose. Il y a la petite planche de fraisier, qu'on a mis en place cette année. Et il y a aussi les myrtillers. Mais ça, je crois que ça va être un échec parce que la terre leur convient pas du tout. C'est pas assez acide, je pense. Donc, c'est vrai qu'ils sont pas très jolis. On les a mis l'an dernier. Non, il y a 2 ans maintenant. Oui, on les a mis il y a 2 ans. Et ils sont pas très très beaux. Et juste derrière, il y a les pommiers. Donc là, ils sont encore jeunes aussi. Mais on devrait avoir des pommes dans 3 ans, je pense. Voilà. Et donc, on va les faire palisser, en fait. Donc, ça va être joli. Donc, sur la planche des myrtilles, on voit pas beaucoup les myrtillers. Mais par contre, c'est très joli parce que les herbes sauvages ont poussé. Il y a du trèfle blanc. Il y a des boutons d'or, donc des renoncules. Il y a des compagnons rouges. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. C'est la plante qui pousse sur les bords de route, qui est rose. C'est vraiment une couleur magnifique. Et juste à côté, il y a ma prairie où il y avait les moutons. Et là, on les a changés, on les a emmenés l'autre jour. Et tout au fond, il y a 2 planches de betteraves et les planches d'échalotes, échalions, oignons jaunes, oignons rouges. Dans la série Petit Problème, j'ai un petit agneau qui est mort. Alors c'est pas vraiment une surprise parce que sa mère l'a pas accepté en fait. Donc au début je les laisse dans une case et en fait elle le repoussait. Au début je la laisse dans la case et je lui donne du grain et je la bloque au cornadis en fait pour que le petit puisse téter tranquillement. Je pense qu'il a pas eu assez de lait dès les premiers jours, donc j'ai déroger à ma règle parce que je m'étais dit que je ferais 0 biberon cette année. Je voulais pas avoir à biberonner des agneaux parce que c'est souvent des agneaux que j'arrive pas à mener à terme et du coup c'est une perte de temps, une perte d'argent et c'est pour moi ça a pas beaucoup de sens quoi de faire des agneaux élevés au biberon. Mais là, c'était une des dernières à mettre bas. Là d'ailleurs, c'est fini là. Enfin non, il m'en reste une. Et donc je me suis dit oh non je veux pas en perdre un autre parce que il a pas assez de lait, donc au deuxième jour j'ai dit allez je lui fais un biberon quoi. Il a jamais vraiment voulu téter en fait, donc je sais pas pourquoi. Pourtant il avait faim, enfin il avait la tête toute sale, je le voyais qu'il allait de brebis en brebis et qu'il essayait de téter, il était un petit peu voûté, enfin bref il avait pas assez de lait quoi. Donc j'ai essayé, donc au début on essayait 3 fois par jour, matin, midi et soir, donc c'est plutôt des petites tétées. Il buvait mais vraiment pas beaucoup, enfin il tétait pas bien quoi. Donc là il a 10 jours. Enfin, et donc ce matin il était mort dans la bergerie. Donc voilà, c'est un peu... Je sais que ça fait partie de l'élevage et bon, on peut pas dire que je suis triste, hein, je le savais quand même pratiquement depuis le début. S'il avait été, ça aurait pas été le champion de l'année quoi, mais il aurait pu vivre. Enfin en tout cas cette année, il y a 0 biberon. Au début de par ma volonté, mais finalement à la fin par la volonté entre guillemets des agneaux quoi, parce que j'ai essayé d'en biberonner un autre et qui a pas voulu non plus. Bon alors lui il s'en est mieux sorti, il est maigrichon, mais sa maman s'en occupe bien, mais elle a pas beaucoup de lait parce que c'est une mamie et puis enfin voilà. Mes tentatives de biberon ont échoué. J'ai combien d'agneaux? Eh bien, il doit y en avoir 133, je crois, à l'heure actuelle. Donc, 0 biberon. Faudrait que je vous donne un peu les résultats de l'année, savoir précisément les simples, les doubles, les chiffres un peu. J'aime bien regarder ça. Le pourcentage de mâle-femelle aussi, je trouve c'est assez intéressant. Mais j'ai l'impression, j'ai pas regardé depuis un petit moment là, mais j'ai quand même l'impression que c'est assez équilibré. Et puis aussi, là, il y en a qui commencent à avoir 3 mois et qui commencent à être beaux. Et généralement, je commence le sevrage vers 90-100 jours. Donc voilà, on va pouvoir commencer à sélectionner les belles femelles pour le renouvellement du troupeau. Donc là, on a sorti tout le monde. On est dans un petit chemin dans les bois et je vais les emmener dans un champ où il y a plein d'herbes. Mais elles sont en train de grignoter du lierre. Oh, il y a un petit boiteux. C'est mon petit chouchou, il est devant. Hé, hey, salut mon chouchou. Ouais. Allez les filles, de l'herbe bien verte. Et normalement, on fait la tonte mardi. Donc, on redescendra tout le monde. Waouh, regardez-moi cette prairie. Oh, trop bon les filles. Allez, là, faut monter tout en haut. Et on a une super belle vue de là-haut. Et il va faire beau. Donc, ça va être chouette. Ça a bien repoussé l'herbe. Voilà, là, qu'est-ce que c'est beau. Donc là, elles arrivent dans le champ. Alors, premier réflexe des limousines, c'est de lever la tête pour manger les feuilles. On dirait des chèvres, ces moutons. Et là, elles mangent des grosses bouchées d'herbe verte. Il y a des petits qui sortent pour la première fois. Et ça commence à arriver tout doucement. Je ne sais pas si elles vont me suivre jusqu'en haut. Bon, il y a Hugo, Papy, Tata, Elga, Virgile derrière. Donc ça devrait aller. C'est ça aussi qui est sympa, c'est les rassemblements. Bon, c'est en train de tout s'étaler dans la prairie là. J'espère que ça va bien monter, bien suivre. Ah, ça fait du bien de les voir manger de l'herbe là, jusqu'aux genoux, enfin même jusqu'au bidon.